7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une semaine avant l'élection américaine, retour dans l'histoire des luttes afro-américaines à travers les victoires des sportifs. À la fin du 19e siècle, les afro-américains étaient considérés comme biologiquement inaptes à la pratique sportive par les suprémacistes blancs. Et pourtant, au fil des décennies, les noirs américains ont fait du sport un objet de lutte pour leur dignité, pour l'égalité, pour la justice. De Jackie Robinson, premier joueur noir à intégrer le baseball professionnel blanc au début des années 50, au basketteur LeBron James, mobilisé pour faire voter les Afro-Américains contre Donald Trump, le sport, véritable passion nationale, a aussi jalonné l'histoire des minorités avec ses polémiques, avec ses symboles. Car le corps a aussi un cerveau, figurez-vous. Bonjour Nicolas Martin Breteau.
Bonjour.
Vous êtes historien des États-Unis, vous publiez Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle, aux éditions EHESS. Également avec nous Audrey Célestine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en sciences sociales à l'université Lille 3. Vous êtes tous les deux d'ailleurs à la même université, Lille 3. Et vous avez publié « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions L'Iconoclaste. Parmi votre sélection de portraits, d'ailleurs, on trouve deux sportives. La championne de tennis Serena Williams. Tout le monde se souvient des sœurs Williams. Enfin, c'était déjà dans les années 90, hein, pour les très jeunes qui nous écoutent. Et puis la très actuelle Simone Biles, la gymnaste la plus titrée de l'histoire, hommes et femmes confondus, en croisade contre les abus sexuels. Et quant à vous, les voisins, les voisines, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions sur ces champions afro-américains à nos invités. Vous composez le WhatsApp, c'est le 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Nous sommes à une semaine de l'élection américaine, je le disais, et nous avons demandé à un philosophe, activiste noir américain, comment il perçoit le mandat de Donald Trump. Cornel West est connu pour ses travaux sur les violences raciales. Il enseigne à l'université Harvard et il répond aux questions de notre reporter Charlie Dupiau.
Je pense qu'il a été dévastateur pour les pauvres et la classe ouvrière en général, et encore plus dévastateur pour les noirs pauvres et la classe ouvrière noire. Son langage a été très vicieux et laid. Il a profondément renforcé les stéréotypes. Par exemple, en 2018, quand il a dit d'une des membres les plus respectées du Congrès, Maxine Waters, une femme noire, qu'elle avait un QI extraordinairement bas. Il y a aussi eu ce moment où il s'en est pris au footballeur Colin Kaepernick, qui a protesté contre la brutalité policière envers la jeunesse noire en posant à genoux à terre pendant l'hymne national, il y a 4 ans. Trump l'a alors traité de « fils de pute », « fils de pute ». Je vais voter pour Joe Biden, même s'il ne représente en aucun cas un salut à mes yeux. Il ne s'adressera pas de manière significative aux travailleurs pauvres noirs américains. C'est simplement une façon de barrer la route à Trump.
Comment expliquer l'immense vague de colère après la mort de George Floyd le 25 mai, étouffé après qu'un policier blanc a pressé son genou sur son cou pendant 9 minutes? Comment expliquer la vague de colère, de manifestations qui ont suivi à travers la planète?
Je ne pense pas qu'il y ait une seule explication. C'est parfois un mystère, la façon dont certains événements deviennent un catalyseur pour des mouvements majeurs aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Il y a tellement de George Floyd qui ont été tués, tellement de gens qui ont perdu la vie, comme Breonna Taylor, cette jeune afro-américaine tuée par balle. C'est aussi lié au contexte de la pandémie, au néo-fascisme présent à la Maison-Blanche en la personne de Trump, et aux jeunes Américains qui commencent à être fatigués de voir toutes ces attaques sur des jeunes noirs. On sait que tout cela réuni a contribué à créer une toute nouvelle vague de protestations et de nouvelles façons de regarder le monde.
Et justement, vous qui suivez ces mouvements-là depuis des années, qu'est-ce qui est nouveau avec cette mobilisation?
Ce qui est nouveau, ce sont les chiffres. Il y a eu en tout, entre mai et juillet, plus de 4700 manifestations dans plus de 2000 villes. Et ça, c'est juste aux États-Unis. Il y en a eu beaucoup d'autres à l'étranger. On n'avait jamais atteint cette échelle-là. Le deuxième aspect nouveau, c'est que ces manifestations sont multiraciales et majoritairement blanches. Nous avons toujours eu des manifestations multiraciales, mais jusque-là, la plupart des manifestants étaient noirs. Là, il y a eu une majorité de blancs pour défendre les vies des noirs. Et puis, il y a aussi cet effort dans les esprits d'associer le pouvoir de la police, la suprématie blanche, le capitalisme prédateur et l'impérialisme américain à l'étranger. Ça fait partie de la vision du mouvement Black Lives Matter. Et on le néglige souvent. Aux États-Unis, ce qui fait aussi une différence, c'est que le mouvement est né et mené par des personnes homosexuelles noires. Et c'est une évolution très importante. Dans les années 60, trop de mouvements afro-américains étaient homophobes. Ils étaient ouvertement contre les gays et les lesbiennes. Alors que Black Lives Matter est mené par des gays noirs, des femmes et des gays.
Et vous, comment vous avez reçu, perçu cette mobilisation-là qui dure depuis des mois ?
Bien sûr, ce qu'il faut souligner, c'est que Black Lives Matter a émergé sous un président noir, Obama, avec un ministre de la Justice noir, Eric Holder, et un secrétaire à la sécurité intérieure afro-américain, lui aussi, G. Charles Johnson. Tout le pouvoir noir officiel à l'époque n'a pas réussi à empêcher la police de tuer des jeunes noirs. Le problème, c'est aussi que la police est très militarisée, avec des armes qui ressemblent à celles d'un pays en guerre. En tout cas, j'ai été ravi de voir naître cette forme de résistance collective contre le système.
Le risque pour un Afro-Américain d'être tué par la police est 3 fois plus élevé que pour un blanc. Comment, en tant que philosophe, on explique cette brutalité policière-là ?
Fondamentalement, ça veut dire qu'une vie noire a beaucoup moins de valeur qu'une vie blanche. C'est une réalité raciste. Et ça ne concerne pas que la police. On parle du système de santé. On parle des morts pendant la pandémie. Une personne noire a 3 fois plus de risques de mourir du coronavirus qu'une personne blanche en ce moment. On parle d'inégalité en termes d'accès à l'éducation. Le fait que la vie noire ait moins de valeur qu'une vie blanche se manifeste dans toutes les sphères de la vie américaine.
Alors vous avez été dans les années 70 le premier Afro-Américain à avoir un doctorat en philosophie à l'université de Princeton. Et là, pendant ces 50 dernières années, quel progrès on a pu voir sur cette question-là, selon vous ?
Je suis la dernière personne noire à avoir obtenu un doctorat en philosophie. Non, il y en a eu un autre. Nous n'avons été que deux en plus de 40 ans. Donc je ne parlerai pas de progrès, non. Oui, il y a eu un essor de la bourgeoisie noire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour moi, ce succès de la bourgeoisie n'a aucune incidence sur le reste de la communauté noire. Nous avons une crise du leadership noir américain. Car à côté de cette bourgeoisie, il y a les noirs pauvres, la classe ouvrière noire. Et eux, ils sont dévastés.
Cornel West, philosophe américain engagé. Un grand merci à Mamadou Lamine Sagna, sociologue sénégalais, qui a permis cet entretien. Il a consacré d'ailleurs un livre à Cornel West, « Violence, racisme et religion en Amérique ». Cornel West, une pensée rebelle. Nicolas Martin-Breteau, Audrey Célestine, est-ce que la possibilité d'une réélection de Donald Trump suscite une réelle mobilisation dans la communauté afro-américaine, en particulier chez les intellectuels afro-américains ? On parlera bien sûr aussi des sportifs, Audrey Célestine.
Oui, je pense qu'il y a effectivement une très forte mobilisation de tout un tas de secteurs de la société, en particulier des intellectuels, pour que quelqu'un comme Cornel West, qui quand même se situe très, très à gauche, si on peut dire, de l'échiquier politique, qui est absolument pas le type d'intellectuel qui soutient de manière générale un candidat qui pourrait être considéré comme un candidat plutôt centriste. Cornel West, qui a été également extrêmement critique des deux présidents, Barack Obama, pour que lui soutienne Biden, c'est que finalement, il y a une espèce de sentiment d'urgence qui est répandu dans de larges segments de la population et qui incite les les uns et les autres à, dans une certaine mesure, prendre ses responsabilités face à ce qui est considéré comme une menace fasciste aux États-Unis.
Nicolas Martin Breteau, Cornel West, dit que le succès de la bourgeoisie noire n'a eu aucune incidence sur la condition des Noirs pauvres. C'est effectivement un vieux débat. On a beaucoup dit, et pas que Cornel West, que Barack Obama, premier président noir de l'histoire de l'Amérique, n'avait finalement pas fait grand-chose pour la condition des Noirs pauvres, voire même pas forcément pauvres.
Disons que c'est un débat ancien, comme vous l'avez dit, et on voit depuis le mouvement pour les droits civiques des années 50 et 60 une polarisation de la communauté noire qui est plus marquée aujourd'hui qu'auparavant. Et il est exact de remarquer que l'évolution sociale, c'est-à-dire la progression d'une bourgeoisie noire dans la société américaine jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État américain avec la présidence de Barack Obama, n'a pas fondamentalement changé la situation des classes populaires noires. Et on a une communauté qui n'est pas du tout homogène, et ce qui prouve en fait qu'il ne suffit pas simplement d'avoir quelques personnalités exceptionnelles à certains postes à responsabilité pour changer fondamentalement la donne, ce qui entraîne justement dans le mouvement Black Lives Matter une réflexion sur les possibilités d'un changement institutionnel ou systémique de la société américaine.
Alors justement, quel rôle pour le sport dans les luttes pour l'égalité? Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions à nos invités, 33-7, 64-45, 51-41. On écoute un message d'une voisine à Abidjan.
Bonjour, moi c'est Fawziat. Alors pour moi, le sport est un moyen d'intégration dans la société. C'est aussi un canal de revendication. Et j'aime bien donner l'exemple de Jackie Robinson, le premier noir à intégrer la Ligue majeure de baseball en 1947, en pleine ségrégation aux États-Unis. Il a réussi à s'imposer en tant que l'un des meilleurs de l'histoire du baseball et grâce à cela, certaines portes qui étaient fermées aux Noirs ont commencé à s'ouvrir. Les Noirs n'avaient même pas accès aux toilettes dans les stations-service. Et lors d'un voyage avec son équipe, il a demandé à aller aux toilettes, on lui a dit non. Il a dit « Ok, vous me refusez les toilettes, d'accord, notre bus arrête alors de faire le plein chez vous. » Et c'est comme ça qu'ils ont accepté et petit à petit, les Noirs ont commencé à avoir accès aux toilettes. Il a également été à la couverture du magazine Life, le premier Noir également à être sur un timbre postal. Ces actions ont été vraiment déterminantes pour la révolution des droits civiques. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on sait que le sport est vraiment un moyen de revendication. On a vu certains joueurs de la NBA qui ont boycotté les matchs après l'assassinat de George Floyd, mais il reste encore à faire.
Et maintenant, on va attendre les Royals. And now batting for the Royals. Le deuxième but, the second baseman, Jackie Robinson.
Of course, the crowd senses this tremendous situation here. The full spotlight is focused on Robinson at the plate.
Nicolas Martin Breteau, il faut nous rafraîchir la mémoire parce que Jackie Robinson, ça date des années 50. Hein. Qui était-il? Où en était la ségrégation? Et c'était quoi cette histoire de toilette?
Donc Jackie Robinson est un joueur de baseball noir américain qui jusqu'en 1947 jouait en fait dans les ligues noires ségrégées. Et puis voyant la qualité exceptionnelle de son jeu, un certain nombre d'équipes blanches se sont intéressées à lui, en particulier les Brooklyn Dodgers, qui l'ont finalement intégré à leur effectif, composé uniquement de joueurs blancs, dans une ligue composée elle-même uniquement de joueurs blancs. Et en 1947, donc, il joue son premier match avec cette équipe et donc il déségrègue de fait, par sa participation à ce match, la Ligue majeure de baseball. À l'époque, c'est un événement extraordinaire. De nombreux Noirs considèrent que cet événement est quasiment l'égal de l'abolition de l'esclavage, ou en tout cas, c'est l'événement le plus marquant dans leur histoire depuis l'abolition de l'esclavage, étant donné que le sport a à l'époque, et on l'a souvent, ou on l'oublie souvent, une importance sociale extraordinaire. C'est-à-dire c'est certainement l'activité, la pratique sociale et culturelle qui rassemble le plus grand nombre de personnes à l'époque. Et voir un noir pouvoir présenter ses qualités et sa dignité à la face du monde dans le sport qui est considéré comme le sport national américain par excellence,
le baseball,
est quelque chose d'absolument extraordinaire.
On est dans l'Amérique ségrégée à cette époque-là.
Absolument.
Ça voulait dire quoi, concrètement ?
Alors, très concrètement, ça veut dire que dans certains États, pas tous, mais dans certains États, notamment dans le sud des États-Unis, on a des lois de ségrégation raciale qui séparent donc la vie sociale des Noirs et des Blancs dans tous les domaines, y compris dans les domaines de vie les plus intimes, en particulier le mariage, les relations sexuelles. Néanmoins, y compris dans les villes et les États du Nord, ou les villes et les États de l'Ouest, une ségrégation raciale existe, mais elle n'est pas fondée sur des lois, une législation, mais elle existe par les pratiques. Donc on a une société qui est concrètement divisée en deux.
D'où l'histoire des toilettes où Jackie Robinson n'avait pas, il n'y avait pas de toilettes à sa disposition, c'est-à-dire ségrégées.
Exact. Et ce que rappelle
pour
votre...
Pour les Noirs. Hein.
Absolument, c'est ça. Tout est ségrégué, y compris les salles d'attente, etc. Et les Noirs utilisent communément à l'époque la pratique utilisée par Robinson lui-même, c'est-à-dire celle du boycott. Vous nous refusez un service, nous ne venons plus chez vous, vous allez certainement perdre de l'argent. Et Martin Luther King a été un des grands utilisateurs de ce genre de pratique.
Vous le dites, ça a été pour les Noirs américains, ça a été une idole, hein, Jackie Robinson. Mais certains disent aussi que finalement, c'est pas une preuve des progrès de la condition noire, mais c'est juste un pantin servile.
Absolument, on peut interpréter de différentes façons Jackie Robinson. Soit c'est un progrès immense dans l'histoire des Africains américains, soit c'est simplement un trompe-l'œil qui n'aura permis finalement que des progrès très faibles, voire marginaux. Je pense qu'il faut adopter une perspective assez nuancée. On ne peut pas faire reposer, je pense, sur les épaules d'une seule personne, que ce soit Jackie Robinson ou Barack Obama, par exemple, les progrès qui engagent des changements profonds, structurels, hein, comme je le disais, de la société américaine. Mais il est clair que Jackie Robinson, en lui-même, son intégration dans le baseball américain n'a pas permis de sortir l'immense majorité de sa communauté de la pauvreté. Il faut beaucoup plus. Néanmoins, on ne peut pas dire non plus que cet événement symbolique soit négligeable.
Alors Jackie Robinson, il intègre une équipe blanche de baseball professionnelle au nom de l'excellence, hein, puisque vous le dites, il a été repéré pour ses performances sportives incroyables. Si on remonte plus loin dans l'histoire, Nicolas Martin-Breteau, le point de départ de votre livre se situe au 19e siècle, hein, dans l'Amérique ségrégée, post-esclavage et guerre de sécession. On est dans un pays où les Blancs considèrent à l'époque les Noirs comme inférieurs intellectuellement et inaptes au sport.
C'est exact. Les Noirs et plus généralement les populations non blanches sont considérées par les populations qui se considèrent comme blanches comme inférieures en tout point. C'est-à-dire non seulement, comme vous le rappelez, du point de vue physique, mais également du point de vue intellectuel et du point de vue moral. Et l'une des stratégies mises en place par les Noirs américains à l'époque, c'est d'essayer de prouver leur dignité, c'est-à-dire d'abord et avant tout leur égalité avec les Blancs. Et en ce qui concerne le sport, c'est intéressant de noter que le sport étant une activité qui a été mise en place, créée, institutionnalisée sur les campus des plus prestigieuses universités anglaises, blanches évidemment, mais aussi des plus prestigieuses universités américaines blanches, on considérait que le sport, voilà, une activité aristocratique par excellence, ne pouvait pas être quelque chose où des Noirs puissent exceller. Aujourd'hui, on pense exactement l'inverse. Le préjugé commun, c'est de dire que les Noirs sont faits pour le sport. Et ça, c'est une histoire de longue durée qui peut l'expliquer.
Ouais, d'ailleurs, vous mentionnez à une certaine époque où on va faire des recherches scientifiques pour comprendre les performances des sportifs noirs, pourquoi ils ont une telle détente musculaire, etc.
L'un des sportifs qui a été, examiné sous toutes les coutures, si je puis dire, c'est Jesse Owens, oui, dans les années 1930. Avant même ses 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, c'est un sportif
en athlétisme,
qui,
absolument. 200 mètres notamment.
Il est spécialiste, ouais, de sprint et de saut en longueur. Et ses caractéristiques, donc, dans l'année qui précède les Jeux Olympiques de 1936, c'est de battre record du monde sur record du monde. À chaque apparition publique de Jesse Owens, il bat quasiment un record du monde sur l'une de ses disciplines. Et s'ensuit dans la presse, noire et blanche, des débats pour savoir comment expliquer cette supériorité apparente de cet athlète et plus généralement des athlètes noirs en général. Et l'un des personnages les plus importants de mon livre, W. Montague Cobb, qui est noir, qui est spécialiste d'anthropologie physique, décide de mettre fin au débat et de passer le corps de Jesse Owens, au rayon X.
Oui, à l'époque, il n'y avait pas d'IRM. Hein, donc...
Exactement, pour essayer de prouver par des données scientifiques irréfutables que le corps de Jesse Owens n'est en aucun cas spécifiquement noir, mais tout à fait comparable au corps blanc, et que donc, si Jesse Owens gagne sur les pistes d'athlétisme, c'est d'abord par son travail et non pas par sa biologie.
Ouais, par son travail, par sa volonté acharnée de s'élever dans la société par et grâce au sport, Audrey Célestine.
Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que rappelait Nicolas Martin-Bretot à l'instant, c'est que quand même ce rapport très paradoxal qu'on peut avoir justement au corps noir dans l'histoire et notamment dans les sociétés esclavagistes et post-esclavagistes, c'est-à-dire que le corps, il est à la fois, il est tour à tour très fort et particulièrement fait pour le travail physique, le travail dans les champs.
La résistance au mauvais traitement aussi.
C'est ça, exactement. Et puis, il va être considéré également comme un corps faible, débile, qui ne peut pas, fragile, et qui ne peut pas effectivement exceller. Et que finalement, cette espèce de balancier entre des conceptions en fait à chaque fois très pathologiques des corps noirs, c'est effectivement une histoire longue qui s'ancre dans l'esclavage, mais avec tout un tas d'éléments très contradictoires, comme on vient de le voir, des corps faibles et des corps forts, des corps résistants et des corps fragiles.
C'est très intéressant la façon dont cette histoire est présentée, et ça prouve une chose, me semble-t-il, c'est que les Noirs, encore aujourd'hui aux États-Unis, ne détiennent pas les structures symboliques capables d'imposer leur représentation d'eux-mêmes. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir un retournement du préjugé sur les capacités athlétiques noires sur le siècle écoulé. Ouais. Et c'est aussi le thème majeur de Black Lives Matter. Comment imposer des changements structurels à la société? Et voilà, ce retournement du cliché sur les corps noirs me semble assez révélateur de cette difficulté pour une population minoritaire, eh bien, d'imposer à une société qui lui est hostile en général ses propres représentations d'elle-même et de ce que devrait être la société.
Quand vous dites les Noirs ne disposent pas, ne régentent pas les organismes propres à redéfinir une définition d'eux-mêmes, à quoi vous pensez ?
Je pense par exemple aux médias de masse en particulier, à la production culturelle générale dans une société en fait. C'est-à-dire les institutions qui ont le pouvoir d'imposer les idées dominantes d'une époque.
Le sport et l'engagement politique pour les droits humains, est-ce que ça marche ensemble ? Pas tout le temps d'ailleurs. Hein. C'est aussi une critique du sport non politisé. Certains disent que finalement les champions noirs américains oublient un peu de s'occuper des noirs pauvres une fois qu'ils sont sur le devant de la scène. Je pense à ce fameux boxeur et prof de sociologie à Howard University à Washington, qui est la grande université cité noire, le Harvard noir, comme disent certains. Vous pouvez nous en dire deux mots, Nicolas
oui,
Martin Bretot.
Cette université de Washington, qui est Howard, est la plus grande, ou en tout cas la plus prestigieuse des universités historiquement noires aux États-Unis. Et dans les années 1960, cette université, comme le reste du pays d'ailleurs, est balayée par le vent du Black Power. Et un certain nombre de ses enseignants, en particulier Nathan Hare, dont vous venez de parler.
Alors, c'est quand même un type assez incroyable, parce qu'il est boxeur et prof de sociologie.
Absolument. C'est quelqu'un qui est né dans un milieu très populaire, très modeste, hein, pauvre en fait, hein, de l'Ouest américain. Et il est le premier à accéder à l'université. Il décroche de façon un peu miraculeuse, de fait, de sa trajectoire sociale, un doctorat de sociologie et devient professeur à Howard. Et il est en même temps boxeur. Et dans les représentations de l'époque, peut-être encore d'ailleurs aujourd'hui, ce sont deux choses antithétiques. On ne peut pas être intellectuel et sportif en même temps.
Oui. Bah lui il a la tête et les jambes.
Il a la tête et les jambes, et il critique très frontalement, un petit peu comme Cornel West qu'on vient d'entendre, l'inaction des leaders de la bourgeoisie noire à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs, bloqués, hein, confinés dans la pauvreté des ghettos.
Et encore, quand vous dites l'inaction, vous êtes plutôt sympa avec ce boxeur à prof de sociologie. En fait, il accuse la bourgeoisie noire d'abandon, de trahison de ses propres origines, finalement. Il dit, les Blancs, à la limite, bon, ils n'ont jamais été dans cette condition-là, ils ne peuvent pas trahir, mais la bourgeoisie noire trahit la condition des Noirs américains.
Oui, et la façon dont vous le dites est exacte. C'est-à-dire que c'est un reproche que l'on fait systématiquement aux bourgeoisies, c'est aux bourgeoisies minoritaires.
Notamment
si vous voulez,
quand elle s'empresse de quitter les ghettos dès qu'elle a un peu d'argent, par
Absolument,
exemple.
Absolument, c'est ce que fait continuellement la bourgeoisie blanche à l'égard des blancs pauvres, mais dès que ce sont des classes supérieures à l'intérieur d'une communauté stigmatisée et minoritaire, ils sont accusés de trahison. Par exemple, Frantz Fanon accuse lui aussi la bourgeoisie noire des Antilles françaises de faire ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose qui est assez typique des années 50, 60 et 70. 30 seconds left in the round.
Now Ali squares away, watching boxing. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white.
Mohamed Ali, qui évoque le roi de l'Afrique, le héros américain blanc Tarzan. Oui, effectivement, ça peut sembler surprenant. Mohamed Ali.
Ça paraît surprenant. En même temps, enfin, je pense que pour que Mohamed Ali représente lui aussi une espèce de symbole qui s'est érigé contre d'autres symboles qu'on pouvait avoir dans la culture populaire, y compris Tarzan, par exemple. Mais
à une époque où on a essentiellement des héros blancs. Alors en 1967, Mohamed Ali, trois ans après avoir remporté le championnat du monde des poids lourds, refuse d'être enrôlé dans l'armée américaine pour s'opposer à la guerre du Vietnam, et il dit « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre ». Sous-entendu, pourquoi je m'enrôlerais dans l'armée américaine. Mohamed Ali, est-ce que c'est sûrement un des sportifs les plus ancrés dans l'histoire populaire internationale des sportifs américains ?
Je pense que Mohamed Ali est le sportif noir américain qui a eu dans l'histoire le plus grand impact politique. Ça reste une figure extraordinaire de la lutte qu'ont menée les Noirs américains pour leur libération, parce qu'il a pris en fait la parole à un moment où les tensions sociales et raciales aux États-Unis étaient extrêmes dans les années 60, et il l'a fait de façon frontale, radicale. Il a été le porte-voix en fait à l'égal de Malcolm X, dont il était un ami d'ailleurs, du Black Power. Jusqu'à le payer de sa carrière. C'est quelqu'un qui, par l'entièreté de son engagement politique...
Oui, il ne le fait pas comme un intellectuel, il le fait vraiment aussi comme un sportif. Il n'a pas les mêmes méthodes.
Non, il n'a pas les mêmes méthodes, et il utilise sa notoriété médiatique justement pour la mettre au service de sa communauté et montrer aux yeux du monde que les Noirs sont dignes, sont forts et même sont beaux, parce que lui-même était quelqu'un de beau, et il participe de cette révolution du « Black is beautiful ». Et d'ailleurs, lui, il en rajoute une couche, si l'on peut dire, en disant « Black is best ». C'est les Noirs sont les meilleurs, et il ne rate jamais une occasion sur le ring de montrer cette supériorité physique noire qui exalte en fait voilà, une forme de Black Power en acte.
Et puis je trouve que c'est pour le coup l'une des figures qui dépasse complètement les frontières des États-Unis. C'est-à-dire qu'à la même période, vous avez des personnalités du showbiz qui vont dépasser les frontières, qui vont commencer à se retrouver dans les journaux, dans les magazines, y compris en Europe. Et que Mohamed Ali représente, voilà, c'est le sportif qui représente ça aussi pour les Noirs d'ailleurs, les Noirs d'Europe. Et j'imagine que c'est un peu le cas également en Afrique. C'est clairement le cas aux Antilles. Il représente un combat pour la dignité très fortement transnational. Et en cela, je pense qu'il représente mieux que d'autres le côté effectivement international et transnational de ces luttes.
Et une preuve de l'excellence qui est une valeur tellement américaine, la fameuse excellence. Alors quel rôle pour le sport dans les luttes pour l'égalité ? On va se retrouver juste après Sam Cooke, 1963, A Change Is Gonna Come. Un changement est en train d'arriver. C'est une chanson qui était régulièrement diffusée avant les discours de Martin Luther King. Et Barack Obama d'ailleurs en a cité des extraits lors de son discours de victoire en 2008 à Chicago.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living,
to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come.
Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, vous êtes chez 7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et on s'interroge quel rôle pour le sport dans les luttes pour l'égalité chez les Noirs américains aux États-Unis. Nous sommes en plus à une semaine de l'élection présidentielle, c'est pas mal de remonter tranquillement le fil de l'histoire. Nous sommes en compagnie d'Audrey Célestine qui publie Des vies de combat, femmes noires et libres, et on va, vous êtes chercheuse en sciences sociales à l'université de Lille 3, Audrey Célestine. Et dans quelques instants, on abordera deux portraits de sportives noires américaines qui vous tiennent à cœur. Et puis, on est aussi avec vous, Nicolas Martin-Breteau. Vous publiez Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle. Aux États-Unis, beaucoup de gens le savent, on peut accéder aux meilleures universités si on est très bon en sport. Alors certes, on ne va pas se voiler la face, Harvard reste une université très majoritairement blanche, de gens très aisés, etc. Néanmoins, on a des Noirs américains qui ont pu accéder à des universités très prestigieuses aux États-Unis de par leur excellence en sport, puisqu'il y a des équipes dans les universités qui mènent des compétitions qui sont très prisées du grand public, et donc il y a des enjeux aussi économiques derrière ça. Ça date de quand, ça, cette façon de voir le sport pour accéder aux meilleures universités aux États-Unis? Ça n'existe pas dans certains pays d'Europe, notamment en France.
Je pense qu'il y a deux choses. D'une part, dans la tradition de l'enseignement, qu'il soit secondaire ou supérieur aux États-Unis, et même plus généralement dans le monde anglophone, il y a une insistance très, très marquée pour un développement complet de l'individu, qu'il soit intellectuel ou physique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que aux alentours des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, au moment où commence la déségrégation de la société américaine, de plus en plus d'opportunités sont offertes aux Noirs américains d'entrer dans des universités grâce à des bourses sportives, étant entendu que, à la même époque, comme vous le disiez, le marché sportif explose et que cela devient de plus en plus rentable pour les universités d'avoir des équipes de différents sport du tout meilleur niveau. Et aux États-Unis, l'université est en fait l'antichambre du monde professionnel en matière sportive.
Alors on a beaucoup cité des champions hein, là, puisque c'est vrai aussi que les auditeurs ont envie de qu'on leur rappelle des histoires qui font rêver. Mais vous le dites beaucoup dans votre livre, Nicolas Martin-Breteau, dans votre livre, il y a aussi une émancipation par le sport, mais une éducation aussi par le sport, pour le sport. Mais ça ne conduit pas forcément à fabriquer des champions. L'objectif, ça n'est pas que celui-là.
Non, vous avez raison. L'un des points que j'essaye de mettre en valeur dans les livres, c'est l'idée selon laquelle les Noirs américains subissent une violence raciale à cause de leur corps considéré comme inférieur. Et l'un des buts de l'éducation physique dans la communauté noire américaine à l'époque, c'est de montrer l'égalité des corps noirs et blancs. Et le sport, donc l'éducation sportive, est importante à cet égard pour des anonymes, c'est-à-dire pour les enfants de la communauté noire. Et de fait, l'un des buts, c'est d'essayer de construire des individus complets, comme je le disais, à la fois bons en sport, mais également dignes et égaux aux blancs en termes intellectuels et en termes moraux. Et donc le sport, c'est d'abord dans la communauté africaine-américaine quelque chose qui est pratiqué par des millions d'anonymes dans le but d'élever l'ensemble de la communauté. On a une idéologie de l'élévation de la race qui est très prégnante encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est tout à fait commun dans la communauté africaine-américaine. Devenir meilleur, notamment par le sport.
Parce qu'il y a aussi un mécanisme bien connu dans le sport, quand on fait faire du sport aux enfants, et ça, c'est pas propre à une certaine communauté, c'est que ça renforce la confiance en soi aussi. Ça, c'est très américain, André Célestine.
Oui, oui, effectivement, c'est très américain, et cette question de la confiance en soi, le fait d'avoir des modèles, des personnes qui... et puis de parvenir à se dépasser, ça fait partie de ces valeurs très importantes dans le portrait que je fais de Serena Williams, justement. L'un des moments importants, c'est justement son père qui montre à quel point donner de la confiance à ses filles pour se dépasser est l'un des éléments fondamentaux de son éducation.
Ouais. Et le meilleur moment, c'est de commencer à... Le meilleur moyen, c'est de commencer à faire du sport extrêmement
très jeune. Très jeune,
très jeune. On écoute Serena Williams.
I remember the whole stadium. Was 99% white people, and they were all booing.
An American crowd booing an American family, and you have to say that it does smack of a little bit of racism.
La championne de tennis Serena Williams, 39 titres du Grand Chelem. On connaît les sœurs Williams, hein, même au-delà de Serena. Il y a sa sœur aussi, Venus Williams. Elle a d'ailleurs été en match contre elle.
Elles ont déjà souvent joué, oui.
Ouais. Quelle va être la place de Serena Williams comme rôle modèle
de Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que lorsque Serena et Venus Williams surgissent sur la scène sportive et sur la scène médiatique, il y a comme une surprise. Ces deux gamines noires dans un sport qui est quand même envisagé plutôt comme un sport blanc, qui ont ces petites perles blanches aux cheveux, qui ne ressemblent pas à des sportives, à des tennis ou même de manière générale, qui sont plus des sœurs, qui jouent ensemble, qui font des doubles ensemble, qui gagnent ensemble, qui sont... Et il y a toute une espèce d'histoire de récit qui se fait autour d'elle, autour d'un père qui les contrôlerait, qui les manipule, et de petites filles qui sont quasiment forcées de faire du sport. Et c'est vrai que on a vu au cours des 20 dernières années se déployer une carrière, des carrières absolument exceptionnelles pour ces deux femmes. Et on a également vu, peut-être l'extrait le montre bien, toute la violence et l'hostilité.
Oui, elle dit j'arrive sur le court et il y a un stade noir à 99%, blanc à 99%.
Blanc, et puis bon, il pourrait être blanc et tout à fait favorable, mais il est blanc et hostile parce qu'elle elle est considérée toujours de manière extrêmement négative, et quasiment tous les stéréotypes qu'on peut attacher aux figures féminines noires aux États-Unis sont attachés à Serena Williams. Elle est pas féminine, elle est agressive, elle est comme ci, elle est comme ça, son corps ne va jamais, sa voix ne va pas, sa manière d'agir ne va pas.
Très musclée,
sa détermination non plus.
Des balles de fond de court extrêmement puissantes. Le tennis dans les années 90, c'était un sport assez blanc, assez élitiste ou pas?
C'était encore un sport plutôt blanc, et les femmes qui faisaient du tennis étaient aussi, c'était un peu tout le jeu de beaucoup d'être assez sexualisées en fait, et très féminisées. Et pour ces filles qui arrivent extrêmement jeunes, protégées par un père et qui jouent un peu moins la carte de l'hypersexualisation sur le court, il y avait quelque chose d'un peu détonnant, d'autant qu'elles s'affirment toutes les deux ensemble contre les images et contre les conditions qui leur sont faites de manière générale.
Vous faites aussi le portrait dans votre livre, Audrey Célestine, de Simone Biles, qui a 27-28 ans.
Oui, qui a une petite vingtaine d'années.
Oui, elle est encore jeune, mais enfin sa carrière est en partie derrière elle. C'est la gymnaste la plus titrée de l'histoire.
Moi, ce qui m'a intéressée avec son portrait, elle, au départ, c'est qu'on la découvre comme une espèce d'être un peu extraordinaire, qui a des performances physiques hors du commun dans un sport qui là aussi n'est pas vu comme un sport investi par les Noirs, notamment aux États-Unis, enfin nulle part d'ailleurs. Et elle correspond un peu à cette génération réseaux sociaux des femmes noires qui font des choses extraordinaires. On parle de Black Magic, Black Excellence, etc. Et puis il y a un retournement un peu politique au moment où elle dévoile avoir été elle aussi la victime d'abus sexuels, et là elle se transforme aussi en un symbole de à la fois d'une victime seule contre une institution qui ne la protège pas, alors que c'est une gamine qui fait du sport.
La fédération de gymnastique américaine. Notamment le médecin de la fédération.
Et le médecin qui, en fait, a été accusé et condamné pour des agressions sexuelles sur plus d'une centaine de jeunes gymnastes américaines.
Au nom d'examens médicaux, pseudo-examens médicaux.
Fait. Et puis elle se retrouve à être une des voix les plus importantes et les plus essentielles dans la lutte à la fois du mouvement MeToo et puis contre cette fédération qui ne protège pas en fait les jeunes sportives. Ouais.
Alors comment on est passé finalement, là vous rappeliez ces conditions physiologiques incroyables de Simone Biles, puisque elle fait des figures sur la poutre hallucinantes, elle a 4 médailles d'or, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Il y a des figures qui sont d'ailleurs pas acceptées pour d'autres gymnastes, tellement ce sont des figures dangereuses mais qu'elle exécute elle. Comment on est passé du sport pour combattre la menace des jeunes délinquants noirs au sport, pour combattre les violences policières à l'égard des noirs? Comment on est passé aussi des noirs inférieurs physiologiquement aux noirs qui sont peut-être supérieurs ou supposés être supérieurs physiologiquement? Alors aussi, on reste dans le même préjugé. C'est tout de même intéressant, tous ces renversements. On va en parler avec l'histoire de LeBron James.
James, fire!
We're not going to let, I'm not going to let, while I have this platform, to let one individual, no matter the power, ever use sport as a platform to divide us. Because the people run this country, not one individual. And damn sure not him.
Le basketteur James, King James, c'est ça on l'appelle ?
King James.
Oui. 4 titres en NBA avec 3 clubs différents. Premier joueur de l'histoire dans cette situation, il me semble. Il évoque beaucoup maintenant dans les interviews son engagement personnel contre Donald Trump.
Oui, LeBron James est devenu ces dernières années l'un des porte-voix essentiels de la communauté africaine-américaine. Mais je pense que là encore, il faudrait remettre sa voix, la portée de sa voix dans le contexte social et politique qui permet justement à sa voix de porter, c'est-à-dire le mouvement Black Lives Matter. La voix de LeBron James, si importante qu'elle soit, et elle l'est à mon avis, n'est rien sans ce mouvement de millions d'anonymes qui depuis des années, voire des décennies en fait, essaye de mettre la lumière, la focale du débat public américain sur la persistance des inégalités, voire des violences racistes dont la communauté africaine-américaine est victime. Mais néanmoins, LeBron James, avec beaucoup d'autres d'ailleurs personnalités du monde sportif américain, est devenu un élément essentiel des revendications des Noirs aujourd'hui.
Ouais, le fameux genou à terre de
Colin Kaepernick.
Exactement, et même plus globalement de l'équipe des Los Angeles, des Lakers, non ?
Oui, absolument, beaucoup d'équipes, que ce soit en basketball, en football et dans d'autres sports, ont repris ce geste, et j'aimerais souligner aussi le rôle fondamental des femmes noires, des athlètes féminines noires américaines dans cette histoire. Elles sont moins médiatisées, mais elles ont pris au moins autant la parole et avec au moins autant de radicalité que leurs homologues masculins.
J'aimerais vous poser la question à tous les deux, finalement. Est-ce que les sportifs, à l'heure actuelle, avec ce qu'ils pèsent en termes de notoriété, en termes économiques aussi, puisque ces sportifs noirs américains gagnent énormément d'argent, est-ce qu'ils peuvent avoir vraiment un pouvoir réel sur, notamment sur l'engagement, la lutte contre l'abstention des communautés noires américaines ? Est-ce qu'ils peuvent avoir une influence réelle sur le débat actuel et à quelques jours de l'élection, Audrey Célestine?
Alors je pense que oui, je pense qu'elles peuvent avoir effectivement un effet sur l'engagement. D'ailleurs, au moment où Colin Kaepernick pose le genou à terre, il y a toute une vague en fait de genoux à terre dans les lycées, dans les équipes de lycée, de sport, les équipes amateurs, etc. Après, je pense que la mobilisation en fait électorale des Noirs aux États-Unis, elle est là. Enfin, c'est une population qui, depuis 2012 au moins, vote. Je pense que le problème principal, et ça, une partie des sportifs essayent de mettre l'accent dessus, c'est toutes les pratiques qui les empêchent concrètement d'accéder au vote, en les empêchant de s'inscrire, en les empêchant d'accéder physiquement, concrètement au vote en lui-même. Et de ce point de vue-là...
C'est une minorité qui ne s'est pas beaucoup mobilisée pour voter pour Hillary Clinton contre Donald Trump il y a 4 ans.
Alors, malgré tout, la mobilisation électorale des Noirs américains, tout en étant moindre qu'en 2012 ou en 2008 pour Barack Obama, était quand même là. Enfin, je veux dire, il n'a pas réussi à refaire la coalition Obama, mais il y avait quand même de cela. Et je pense qu'un des problèmes principaux n'est pas tant la mobilisation pour aller voter que la capacité, même si c'est pas rien, que la capacité à pouvoir même s'inscrire et exercer de fait son droit électoral.
Nicolas Martin-Breteau. Ça sera le mot de la fin.
Je pense que Audrey Célestine a raison. L'un des enjeux essentiels de cette élection, on en reparlera certainement sur votre antenne et ailleurs, c'est l'accès des citoyens américains, en particulier des minorités, au vote physiquement. Comment aller voter?
Et on en parle déjà évidemment beaucoup sur l'antenne de RFI et sur le site rfi.fr. Surtout, n'hésitez pas à suivre la campagne. Est-ce que le sport pourrait à terme parvenir à réconcilier une Amérique plus divisée, plus fracturée que jamais, quel que soit le résultat de l'élection ou pas? Vous y croyez, vous qui êtes passionné par l'histoire du sport aux États-Unis, Nicolas Martin-Breteau?
Honnêtement, non, je ne le crois pas. Je ne pense pas que le sport ait ce pouvoir, malgré ce que disait LeBron James. C'est ce qu'on aimerait croire et qu'on essaye aussi de croire en France. On n'a qu'à penser à la victoire en Coupe du Monde en 1998. Je pense que le sport n'a pas ce pouvoir, même s'il est important dans une société.
Et parce qu'il a le pouvoir au moins de faire rêver, et on en a besoin en ce moment. Merci à tous les deux, Nicolas Martin-Breteau. Le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle, c'est publié aux éditions HESS, Audrey Célestine, des vies de combat, femmes, noires et libres aux éditions L'Iconoclaste. Merci. Merci à tous les deux. Demain, 7 milliards de voisins, entreprendre en Afrique avec, comme toujours, le coach Didier Akwété et un débat, comment trouver des financements pour son entreprise. Pour vos questions, pour vos réactions, vous contactez dès maintenant le 33 7 64 45 51 41. Allez, on se quitte avec la rappeuse belgo-congolaise Dilem et le single de son tout nouveau album Gore.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Yeah, yeah. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup, sa peur.
Seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine.
Seul, seul. Seul, je veux être seul. Seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na.
Merci à l'équipe de 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Victor Hull, Didier Cherouz. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement ou tout simplement sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Je vous dis à demain, dans quelques instants, le journal sur RFI.
Je veux être seule.